Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants a finalement approuvé, après de longues tergiversations, une aide financière de près de 100 milliards de dollars. Je voudrais que la part du lion va à l'Ukraine, mais Israël et Taïwan récolteront aussi plusieurs milliards. On en parle avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bon début de semaine Alexandre.
Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au cours de la fin de semaine, ça a finalement débloqué?
Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a débloqué? D'autant que depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, les Républicains et leur patron à la Chambre des représentants, Mike Johnson, disaient ne pas être du tout convaincus de la nécessité, surtout sur l'Ukraine, d'envoyer davantage d'argent. Israël est toujours un cas à part. D'ailleurs, à une époque, on disait il faudra saucissonner l'aide pour justement ne pas bloquer ce qu'on pourrait envoyer qui est crucial en Israël, alors que sur la question ukrainienne, il y avait davantage de doutes chez les Républicains, parce que si on rentrait dans les détails, on verrait que chez les démocrates, il y a peut-être de plus en plus de doutes à l'idée d'envoyer de l'aide militaire à Israël sans trop poser de questions. Mais effectivement, les choses ont beaucoup changé. Je commencerai par te dire que samedi soir, alors que peut-être certains étaient sur le match de hockey ou autre chose, à Washington, au Congrès, ça ne chômait pas. C'était un peu bar ouvert. On parlera essentiellement aujourd'hui, on reviendra peut-être là-dessus cette semaine, parce que c'est significatif, ça va changer un peu le cours des opérations militaires en Ukraine. Ça risque d'avoir un impact, en tout cas on le souhaite, parce que c'est 61 milliards qui se destinent à l'Ukraine. Ça serait le fun que sur le terrain, ça puisse avoir un impact. Mais c'était beaucoup d'autres choses aussi qui ont été adoptées. Par exemple, la Chambre des représentants a à nouveau décidé de voter sur TikTok et sur la nécessité qu'aura TikTok d'être cédé à des intérêts américains, sans quoi il n'aurait plus le droit d'opérer aux États-Unis. Encore faut-il que le Sénat vote là-dessus. Mais c'était un des éléments. En matière, disons, de sécurité et de défense, un gros samedi soir, par exemple, le renouvellement de ce qui, en anglais, a un acronyme, FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui permet aux services de renseignement américains, tu me diras pourquoi ça nous intéresse ou ça devrait nous intéresser, parce qu'en général, ce qui se passe chez les Américains peut aussi arriver chez nous. Donc, depuis longtemps déjà, en vertu de ces FISA, les autorités américaines du renseignement peuvent espionner les communications d'Américains qui sont soupçonnés d'être en lien avec des puissances étrangères ou des agents travaillant pour des puissances étrangères. Il suffit d'avoir dans une communication interceptée l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'un Américain pour qu'on puisse justifier de l'espionner, mais sans aucune forme de mandat. Je répète, sans aucune forme de mandat. C'est-à-dire que les espions, la CIA, le FBI, peuvent dire, et dans le cas qui nous intéresse, surtout la National Security Agency, peuvent dire, on n'a aucun besoin de mandat, ce qui est toujours un peu à la frontière de ce qui est constitutionnellement accepté, mais c'est accepté. Et le Congrès a ordonné donc cette autorisation pour les deux prochaines années. Mais on a surtout ajouté à l'autorité qui est donné en ce moment aux agences de renseignement, parce que à ce jour, ce que ça signifiait, c'est qu'ils pouvaient se rendre auprès des grandes entreprises de communication, téléphoniques, réseaux sociaux, et leur dire, écoutez, on a quelqu'un dans le collimateur et on aimerait accéder à ces communications. Et vous n'avez pas le droit d'informer la personne que nous sommes en train de l'espionner. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que toute personne qui a accès à ce qui permet de transmettre l'information. Donc, suis-moi bien, un électricien qui, sur une base régulière, a accès au réseau à quelque part dans une entreprise, au câble, pourrait, si pour une raison ou une autre la compagnie de téléphone ne voulait pas obtempérer, cet électricien, cette personne, pourrait voir un jour les agents du renseignement cogner à sa porte et lui dire, écoute, on a besoin de toi, il faut que tu nous aides à aller espionner quelqu'un et il est impossible de dire un mot, c'est-à-dire qu'on est tenu au secret. Alors, on a étendu l'autorité qui est donnée aux Américains, et particulièrement aux services de renseignement, pour, dans certaines circonstances, et on le comprend, on parle toujours de sécurité nationale, c'est pour ça qu'on accepte ce genre de compromis. Et comme je veux dire, on est à la frontière, mais vraiment à la frontière de ce qui est constitutionnellement acceptable. C'est fait depuis de nombreuses années, on sait qu'il y a eu des abus par moment, et il y avait plusieurs représentants qui disaient, un instant, il faut qu'on commence à brider les agences de renseignement. Or, samedi, dans le cadre de cette espèce de bar ouvert où on a adopté toutes sortes de choses, on s'est aussi intéressé à l'autorité qui est donnée aux services de renseignement pour espionner, quand il le faut, dira-t-on, les citoyens américains. Donc, aussi des votes très importants pour donner plus d'argent à l'Ukraine, 61 milliards de dollars. C'est dans un contexte où on dit souvent que Washington est polarisé, c'est quand même 311 congressmen, démocrates et républicains, qui ensemble ont accepté de voter pour débloquer l'argent qui ira à l'Ukraine, 26 milliards de dollars pour Israël et 8 pour Taïwan, qui n'est pas encore un théâtre d'opérations militaires, mais où on redoute que la Chine, un jour, bientôt peut-être, pourra intervenir. Et c'est un message qu'on veut envoyer aux Chinois en disant « Nous sommes prêts à reconnaître qu'il y a là un danger potentiel. Nous allons fournir à Taïwan de façon préventive les outils, les moyens. » Et quand on dit les outils, les moyens, on parle d'armes pour l'essentiel, qui leur permettront de se défendre si le pire devait arriver. Alors, tu disais « Qu'est-ce qui s'est passé? » Ben, Mike Johnson, qui est donc le patron de la majorité républicaine dans la Chambre des représentants, un allié aussi de M. Trump et qui on estimait donc, parce qu'il est allié de M. Trump, allait continuer à refuser de libérer de l'argent pour l'Ukraine, s'est rallié. Et pour lui, le moment de vérité, c'est d'avoir été exposé par les services justement de renseignement américains, exposé à de l'information qui lui donne à penser que sans ces milliards supplémentaires, l'Ukraine serait au bord de l'effondrement. Alors, c'est très intéressant parce que si c'est le cas, comment expliquer que tout ce qu'on a envoyé d'argent dans le passé n'ait pas fait une plus grande différence?
Un très bon point. Et est-ce que là, les 61 milliards, est-ce qu'ils vont réellement changer quelque chose? À un moment donné, il y a plusieurs Américains qui en doutent, hein, d'ailleurs, Stéphane. C'est pas une mesure qui fait l'unanimité auprès des Américains, loin de là.
C'est absolument pas une mesure qui fait l'unanimité auprès des Américains. C'est d'ailleurs là que c'est surprenant, parce que chez les Républicains particulièrement, et ça devrait être le fonds de commerce de M. Johnson. Alors, c'est vrai qu'il y a une division au sein du Parti républicain. Il y a la version MAGA, la version de M. Trump, et une version plus traditionnelle et qui est en général interventionniste, favorable aux guerres à l'étranger chez les Républicains. Mais c'est une partie de l'élite républicaine qui est un peu battue en brèche par un mouvement plus isolationniste. Alors, la seule véritable question, effectivement, c'est cet argent, 61 milliards de dollars, c'est de l'argent frais, mis à la disposition de l'Ukraine, peut-il faire la différence dans le conflit, dans un contexte où on est prêt à dépenser, mais nulle part, personne ne dit ce que sont les objectifs. Est-ce que c'est de stopper les Russes? Est-ce que c'est de gagner la guerre? Est-ce que c'est d'aller plus loin et de faire en sorte qu'on puisse repousser les Russes jusqu'à leurs frontières? Personne s'est commis là-dessus. Ça, c'est le plus surprenant. Et compte tenu de ce que l'histoire récente nous enseigne, c'est les résultats vont être difficiles à obtenir. En Afghanistan, on a investi des sommes colossales pour finalement partir la queue entre les jambes. Le Washington Post, qui est un de ses meilleurs journalistes, a documenté ça en allant simplement demander les documents officiels du Pentagone, documents qui étaient inaccessibles jusqu'à ce qu'après avoir utilisé tous les recours, il s'est rendu, en vertu de ce que serait chez nous, la Commission d'accès à l'information, s'est rendu jusqu'à ce qu'on appelle les Afghanistan Papers, comme il y avait eu des Pentagon Papers à l'époque de la guerre du Vietnam, qui documentent de l'interne. C'est le Pentagone qui fait cet exercice-là. En fait, c'est un rapporteur spécial. Les problèmes de corruption, d'argent dépensé à hauteur de milliards de dollars sans que ça ait aucun impact en Afghanistan sur la création d'une société civile ou sur les gains militaires qu'allaient faire les Américains. Au total, c'est de l'argent qui a été dépensé, mais pour l'essentiel en vain. Est-ce que l'Ukraine sera différente? Est-ce que c'est un cas de figure qui va se présenter autrement? On peut se poser la question. À ce jour, c'est 113 milliards qui ont été votés pour l'Ukraine, de l'aide militaire, de l'aide évidemment civile aussi. Et c'est clair que sans cette aide, les Ukrainiens n'auraient pas livré la bataille qu'ils ont réussi à livrer jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'on peut voir à l'horizon quelque chose qui fera la différence? Monsieur Obama, à répétition, s'est fait dire par l'armée américaine, justement en Afghanistan, si on en fait un peu plus, si on investit un petit peu plus, si on envoie davantage de soldats, ça va finir par faire la différence. On a eu le même discours en Irak. Donc, est-ce que les Américains aujourd'hui sont en mesure, M. Biden, de faire la démonstration que ces 60 milliards supplémentaires vont permettre d'être un facteur différentiel, tout en nous donnant les contours de ce qui serait une solution satisfaisante. Encore une fois, je le répète, de ce point de vue-là, rien.
Ouais. Politiquement, est-ce que Johnson peut survivre à cette espèce de 180 degrés-là chez les Républicains, compte tenu aussi de toute l'influence du mouvement MAGA au sein du parti?
C'est une vraie question. Il y a 112 Républicains qui, sur la question de l'aide à l'Ukraine, ont voté contre leur leader, 112. Marjorie Greene Taylor, qui est probablement une de ses ennemies politiques les plus féroces au sein du parti, a déjà demandé sa tête. Et aujourd'hui, les conditions pour obtenir un vote, pour destituer le patron de la majorité, sont archi simples. Alors, est-ce que cette semaine, des Républicains vont dire « on va jusqu'au bout, on demande un vote », la question ensuite, derrière ça, c'est que les démocrates vont le protéger. Parce que si 20 ou 30 républicains qui décident de voter contre lui, compte tenu que c'est une toute petite majorité chez les républicains, il est cuit. Mais s'il y a autant de démocrates qui l'appuient, ben il va être sauvé. C'est donc dire que l'avenir du leader de la majorité républicaine est entre les mains des démocrates. Alors, c'est un peu comme le NPD avec le Parti libéral à Ottawa. Si les démocrates ont l'impression qu'il y a encore des batailles à gagner avec lui, comme ils en ont gagné une, parce que c'était les démocrates qui faisaient pression pour obtenir plus d'argent en Ukraine, plus d'argent pour Israël, s'ils estiment qu'il y a encore des batailles à gagner, pourquoi pas l'appuyer? Donc, on se retrouvait dans une position où ses adversaires politiques vont lui permettre de rester à la tête des républicains. Ou s'ils estiment que pour les prochains mois jusqu'aux élections, il n'y a pas tant de batailles importantes, ben tu ne fais rien, tu laisses les républicains s'entre-déchirer entre eux et tu crées le chaos au sein de la majorité républicaine en disant aux élections en octobre, en novembre prochain, regardez ce qui se passe avec les républicains, incapables de discipline, peut-être qu'il serait temps que vous redonniez le contrôle de la Chambre aux démocrates qui, eux, savent être disciplinés. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça serait certainement politiquement astucieux.
Pendant ce temps-là, celui qui va être candidat républicain à la prochaine élection va avoir une grosse semaine au Palais de justice à New York. C'est le début officiellement là, du procès de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Depuis notre dernière discussion, le jury a été sélectionné et ça s'ouvre donc officiellement aujourd'hui.
Sex, lies and politics, c'est la saveur de la semaine, sinon des prochaines semaines. Ça va être passionnant. C'est les déclarations d'ouverture des avocats de M. Trump, mais surtout des procureurs qui veulent l'épingler. Ça va donner le ton et aussi les premiers témoignages qui vont commencer. Ça va commencer, je pense, avec le propriétaire ou l'ancien éditeur du groupe qui possédait le National Enquirer et qui faisait du catch and kill pour M. Trump, c'est-à-dire que un journal à potin, disons-le, un journal jaune, qui acceptait pour M. Trump d'aller acheter les droits d'histoires compromettantes, pas pour les publier, mais pour justement avoir les droits et forcer les personnes qui voulaient raconter ou pensaient raconter leur histoire pour les bâillonner. Donc, on va essayer de faire la démonstration qu'avant même Stormy Daniels, M. Trump et ses équipes étaient dans une logique de bâillonnage de tout ce qui pouvait être compromettant avant les élections. Parce que d'acheter le silence de quelqu'un aux États-Unis, c'est absolument pas illégal. Ce que les procureurs veulent démontrer, ceux qui font face à M. Trump et à ses avocats, c'est qu'il y avait une intention autre. Et cette intention autre, c'était de pervertir le cours des élections, de faire en sorte que des informations accablantes pour lui ne soient jamais révélées alors qu'il avait l'intention de devenir président des États-Unis. Et ça pourrait même être une forme de dépense électorale non comptabilisée. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va mieux comprendre comment l'affaire va être instruite parce que dans ces déclarations d'ouverture, les avocats vont présenter, planter le décor. Ça risque d'être assez intéressant. Enfin, ça risque pas, ça va l'être. La seule tristesse, c'est qu'il n'y a pas de caméra.
C'est ça qui est dommage.
Il faut donc compter sur les journalistes présents pour nous raconter. Oui, c'est dommage. Ça aurait fait un show exceptionnel. Puis dans certains cas, il y a des caméras au tribunal. Écoute, même sans caméra, il y aura de la télé-réalité, j'en suis convaincu.
On manquera pas de matériel pour nos prochains épisodes. Merci Stéphane.
Salut.
Bye.